du micro, approbation secrète des notes de trompette en complément, il se déployait seul au monde, le casque d'argent lustré à 50 cm de nous. Jean Lino claquait des mains, Lydie frétillait en empathie. Elle le connaissait, un habitué. En temps normal, il était contrôleur à la SNCF. Elle était en train de se remettre du brillant à lèvres quand le trompettiste a dit « Maintenant, on va écouter Lydie !» Jean Lino s'est tourné vers Pierre, avec qui il n'avait jamais noué aucun lien particulier, pour lui agripper l'épaule. Il était rouge, peut-être le punch, le trac, ou un sentiment d'orgueil qui lui faisait aussi lorgner les tables pour tester le degré de concentration. Lydie avait attaqué les moulins de mon cœur, en confidence, d'une voix presque murmurée, avant d'emplir ses poumons pour l'anneau de Saturne et le ballon de carnaval. Sous le spot frontal, le casque fauve et les anneaux d'oreilles étincelaient. Elle avait une voix délicate dont le timbre m'a paru très jeune, des inflexions un peu naïves en décalage avec son physique et l'impression d'énergie coriace qu'elle dégageait. Elle chantait les moulins de mon cœur sans faire traîner les mots comme une comptine en bordure de route pour aller nulle part, pour passer le temps. C'était une drôle de fille qu'on aurait pu retrouver complètement ailleurs et dans une autre époque. Il fallait voir Jean Lino, à l'épreuve de la joie, presque en lévitation sur sa chaise. Elle ne le regardait pas. S'en foutait peut-être. Elle chantait les paroles d'abandon avec une légèreté d'enfant. L'oiseau qui tombe du nid, les pas qui s'effacent, en se balançant d'un pied sur l'autre, faisant onduler ses breloques vivant à fond l'instant avec une imperméabilité souveraine. Jean Lino, penché en avant, veillait l'idole de son corps tendu et n'en attendait pas de retour. Une fois, me sentant l'observer, il s'était redressé comme pris en faute, me souriant heureux et confus. Pour se donner une contenance, il avait pris une photo de Lydie avec le téléphone posé sur la table, à la va-vite, sans souci de cadrage, l'enchantement dans sa pureté ne supposant aucun geste. On avait applaudi à tout rompre, tous les trois. Je savais que Pierre s'emmerdait, mais il participait gentiment. Il m'a semblé que les autres tables applaudissaient Lydie aussi. Elle était restée un peu derrière le micro, dodelinante, prenant son temps avant de céder sa place, contrairement aux autres participants qui s'enfuyaient timidement dès leur prestation terminée. Avant de sortir fumer, Jean Lino avait recommandé 4 verres de rhum Saint-James. Pierre avait tenté des signes désespérés qui me faisaient pouffer. Lydie se rasseyait, épanouie, tapotant son décolleté. Le trompettiste disait « Et maintenant, on est prêt à écouter Jean-Jacques !» C'était un soir bienveillant et gai, voué à l'oubli, au flou des innombrables soirs de la vie. Elle me semble loin maintenant, cette courette du temple. La femme en robe à pois. L'homme qui avait cru faire « Fly me to the moon » à l'harmonica. Nous quatre, bourrés comme des coins sur le trottoir, nous engouffrant avant d'en être virés dans un taxi déjà occupé. Un type qui était passé dans les premiers m'avait dit « Tu viens souvent ?» Première fois. La première fois, on n'ose pas. Le passé s'effondre à une vitesse. Il devient crayeux, comme le mur des oubliés. Je pense souvent au cimetière San Miguel et à Venise, visité presque seul avec Pierre et Bernard un jour de novembre partant de brouillard. San Miguel, infini dédale d'enclos, d'unités de parcelles de champs, une île entière de tombes. Les couloirs du columbarium, des murs entiers de photos jouxtant des vases muraux d'où sortent de fausses fleurs. Des centaines de photos de gens sapés, coiffés, se marrant coquinement. On s'était perdu à déambuler au hasard sans croiser personne. C'était pendant l'heure du déjeuner,